J'aimerais vous inviter à nous éviter notre cœur à cette parole qui vient de l'Esprit de Dieu, et j'aimerais demander à la puissance de l'Esprit de venir nous rendre disposés pour recevoir sa parole. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est inspirée de l'Esprit, elle est vérité, et Seigneur, à sa lumière, tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir comprendre ce que tu désires pour nous, quels sont les projets que tu désires pour ton Église. Seigneur notre Dieu, merci vraiment de nous disposer, d'orienter notre cœur pour qu'il soit entièrement tourné vers toi, vers ta volonté. Amen.
Amen.
Alors, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de prêcher, j'ai pris la lettre aux Colossiens, et donc je vous avais dit que ce qui était important pour le chrétien, c'est qu'il soit entièrement tourné vers Jésus-Christ, que le chrétien ne pouvait trouver son identité qu'en Jésus, et que toute tentative de trouver une identité ou des actions qui se trouvent en dehors de Jésus ne font que nous éloigner toujours plus du plan de Dieu pour nous. Mais j'avais aussi appuyé en disant qu'une fois que nous sommes dans ce plan de Dieu, qu'une fois que nous sommes orientés vers Jésus, eh bien nos actions viennent réellement prendre un sens, parce que c'est à partir de ce moment-là que nos actions sont animées par l'Esprit de Dieu, c'est à partir de ce moment-là que nos actions vont pouvoir refléter la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et cela parce que nous sommes animés par le même Esprit qui animait le Christ. Et c'est cet Esprit qui vient nous greffer à son corps. Vous avez plusieurs textes de l'Écriture qui viennent nous dire que le Christ est placé comme la tête de l'Église, et que le même Esprit qui a ressuscité le Christ nous a appelés et nous a greffés pour former un même corps. Et ce corps auquel nous appartenons, eh bien, il vient prendre une forme, et cette forme, c'est celle de l'Église. L'Église est quelque chose qui est voulu, l'Église est quelque chose qui est désiré de Dieu. Elle fait partie intégrante du plan, de la volonté de Dieu. Elle n'est pas une parenthèse dans l'histoire du salut, mais elle trouve sa source, son identité, son orientation entièrement en Christ. L'ensemble de l'histoire de l'humanité était tourné en vue du moment où le Christ allait s'incarner et qu'il allait continuer son œuvre à travers l'action de l'Église. Et Jésus lui-même vient démontrer l'importance de l'Église dans cette parole de l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, où il s'adresse à l'apôtre Pierre et qui lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Donc c'est vraiment une volonté vraiment de Jésus-Christ lui-même que l'Église. Et l'apôtre Paul va venir encore appuyer cette image de l'importance de l'Église, comme je le disais à l'instant, en utilisant dans plusieurs de ses épîtres l'image d'un corps, en disant que de la même façon que dans un corps, chaque membre a son utilité, mais l'ensemble de ce corps trouve son identité, ses fonctions, parce que c'est la tête, parce que c'est le cerveau qui à un moment décide de mettre en mouvement tel ou tel membre dans le corps. J'aimerais prendre l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et je lirai les versets 15 et 16, plus particulièrement. Et ce texte vient nous affirmer que ce corps que nous formons, que l'Église que nous formons, est animée, elle est orientée, elle trouve son orientation, l'ensemble de ce qui va la former, l'ensemble de ses dons, dans celui qui est le chef. Et voici ce que dit ce texte, donc Éphésiens 4, 15. « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Ainsi, notre attachement à Christ doit nous amener à être liés à l'Église. C'est assez intéressant, je viens de vous revoir dans le passage, bien coordonné et formant un solide assemblage. Le lien, l'identité est fortement ancrée en Christ. Cette Église, elle, bien sûr, c'est l'Église universelle, nous ne sommes pas... Ce n'est pas forcément l'Église des Sables qui est visée dans ce texte, ce n'est pas l'Église aux Éphésiens particulièrement qui est visée, c'est l'Église universelle, bien sûr, dont il est parlé dans ce texte, mais cette Église universelle vient s'incarner, vient être rendue visible dans le cadre de l'Église locale. l'église locale est ce qui vient manifester de façon visible ce qui est l'église universelle. Alors, c'est un petit peu une mode que l'on entend chez beaucoup de prétexter que l'on fait partie de l'église universelle et que l'on n'aurait pas de lien à avoir avec l'église locale, avec l'église visible, en prétextant que l'église s'est régulièrement trompée, que l'église est imparfaite, que ses membres ne sont pas encore parfaits, que l'église manque de rayonnement, et puis, bref, on a tout plein d'excuses pour légitimer le fait que l'on ne veut pas rechercher à se joindre à l'église locale. Et bien souvent, les défauts qui sont montrés à l'Église sont tout à fait légitimes. Mais si bien sûr tous ces défauts sont tout à fait légitimes et qu'il est tout à fait normal de les montrer du doigt, je crois que cela doit nous amener justement à prendre conscience que nous ne sommes pas encore en plein état de sainteté, que nous sommes dans un processus de sanctification. Nous ne sommes pas encore parfaits, nous sommes encore en cheminement. Il y a des choses à avancer, mais cela ne doit pas légitimer le fait que nous ne voulions pas nous attacher à l'Église locale. Et bien au contraire, le fait de se tenir en marge de l'Église locale et de la critiquer, je crois, révèle de l'orgueil, et de l'orgueil de deux façons. Tout d'abord, une orgueil qui nous laissera entendre qu'en nous tenant éloignés, nous serions supérieurs aux autres personnes que le Christ a appelées. Mais je crois aussi un certain orgueil parce qu'elle vient même juger l'œuvre de l'incarnation de Jésus-Christ. Je vous rappelle ce passage que l'on avait pris là dans l'évangile de Jean, à l'étude biblique, Jean 1, à l'étude biblique jeudi soir, vous savez, c'est qu'il est dit que le Seigneur était revêtu de gloire, de magnificence, il était orienté vers le Père, totalement glorieux. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que le Christ vient prendre une apparence humaine, une apparence méprisable, au point même qu'il a besoin d'être présenté par un homme qui est un peu bizarrement vêtu, qui ne présente pas forcément bien. Et je crois que de la même façon, je crois que l'Église universelle est glorieuse, qu'elle est parfaite, qu'elle est sainte, sans péché, parce que l'Église universelle, elle est animée par l'Esprit de Christ. Mais je crois que de la même façon que le Christ est venu s'incarner et se revêtir de la plus grande humilité, eh bien le Seigneur encore aujourd'hui utilise l'Église locale dans son humilité, dans sa faiblesse, avec les éléments que nous formons, nous qui avons besoin encore de nous sanctifier, de nous purifier, et que le Seigneur, dans sa grande grâce, a mis en place l'Église locale, et que cette Église locale est aussi réellement dans le désir, dans le cœur de Dieu, qu'elle exprime clairement, de façon visible, ce que doit être l'Église universelle. Je crois donc qu'il est important de se joindre à une communauté locale afin d'exprimer de façon concrète, comme un corps visible, avec ceux qui sont eux aussi animés par l'Esprit, quelle est la volonté de Dieu pour le monde. Alors je crois que si nous sommes aussi animés par l'Esprit de Dieu, eh bien, de la même façon que l'Église est une vocation pour le monde, eh bien, nous-mêmes, nous sommes invités à nous engager, à prendre conscience de cette vocation qui est la nôtre, en nous engageant par le biais de l'Église locale. Je ne peux pas, lorsque l'Esprit de Dieu est en moi, rester inactif. Je ne peux pas, lorsque l'Esprit de Dieu est en moi, rester passif et simplement observateur de ce qui se passe autour de moi. Mais l'Esprit de Dieu, qui est aussi l'Esprit de l'Église, nous dit l'Apocalypse, viendra me mettre en mouvement en vue de prendre soin de cette œuvre, parce que l'œuvre que Dieu veut, elle est belle, parce que l'œuvre que Dieu veut est aimée de Dieu. Alors je ne peux pas rester un simple consommateur. L'Esprit de Dieu vient me titiller, vient me mettre en mouvement afin que je puisse m'engager pour lui au sein de l'Église locale. Alors bien sûr, je crois qu'il est tout à fait légitime à certains moments, et quand je vous dis qu'il faut s'engager, je ne crois pas que il suffit simplement de le dire pour que les choses se mettent en mouvement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que l'Église est encore dans un chemin de sainteté, et que certaines fois même l'Église a pu nous blesser, nous faire du mal, et je comprends très facilement, et je crois que ça fait partie aussi de la vocation de l'Église, de comprendre que certaines personnes qui viennent nous rejoindre sont blessées, et même certaines fois une blessure qui fait particulièrement mal, lorsque c'est l'Église qui blesse elle-même les chrétiens, ça arrive certaines fois. Nous sommes, comme je le disais, encore dans un processus de sanctification, et que le Seigneur nous donne de prêter bien attention à toutes les personnes qui sont dans l'Église, mais hélas, il y a certaines fois des fois où des gens ont pu être blessés dans leur cheminement dans la foi. Ou bien même, je crois que la question d'engagement, j'arrive à comprendre aussi qu'elle, qu'elles prennent du temps, parce que nous n'avons pas tous le même caractère. Je suis assez étonné de voir des fois des personnes qui rejoignent l'Église, et puis on n'a même pas besoin de leur demander, spontanément, elles ont envie de se donner pour le groupe, pour l'Église. Et puis il y en a d'autres, vous savez, des fois, qui, bah, selon leur caractère, ils sont plus timorés, il faut des fois les solliciter. Et je crois donc que nous devons être attentifs, être veillés, voilà, à toutes ces personnes qui comprennent, être compréhensifs vis-à-vis de toutes ces personnes qui mettent des fois peut-être plus de temps, parce que les blessures sont là, parce que l'identité est là. Mais je crois que bah, ça rejoint un petit peu, je vais dire, la parole que Gérard a donnée ce matin, que... voilà, il y a un temps, nous ne sommes pas obligés de courir, nous ne sommes pas obligés, nous pouvons prendre le temps. Vous savez, un peu comme quand un corps a été blessé, vous savez, par exemple, je remarque, par exemple, mon bras, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, donc j'ai plus de plâtre, mais je ne peux pas encore faire tous les mouvements que je veux, il y a des choses que je n'arrive pas encore à faire, parce que, ben, il y a des choses, c'est une question de temps lorsque l'on a été blessé, mais dans 2 mois, dans 3 mois, eh bien, je ne me souviendrai même plus que j'ai eu cette expérience, enfin, ça va être un vague souvenir. Et je crois que c'est pareil avec notre adhésion pour l'Église. Et je crois donc que cette situation de distance vis-à-vis de l'engagement dans la communauté, si elle se comprend, elle ne doit pas être une finalité. Elle ne doit pas être quelque chose dans lequel on vient se réfugier et puis se scléroser là-dessus. Oui, on a le droit d'être blessé, on a le droit de se tenir un petit peu en observation, mais le but est à un moment d'être guéri pour pouvoir de nouveau participer, être mis en mouvement pour le corps de Christ, pour participer et apporter avec notre identité les dons que nous avons pour la construction de l'Église. Il y a ce texte de Ézéchiel au chapitre 34 qui vient nous montrer que notre Seigneur vient guérir ceux qui sont blessés pour pouvoir les remettre en mouvement. Ézéchiel, chapitre 34, verset 15. « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. » Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Et le but d'être guéri, eh bien, c'est effectivement de pouvoir rester dans le troupeau, pour pouvoir être de nouveau à la vitesse du troupeau, être remis en mouvement. Le but donc de notre adhésion à l'Église n'est pas d'être simplement dans un activisme primaire, mais d'être réellement dans un désir d'activité, pour fortifier, pour guérir, pour être réellement dans l'esprit, dans la volonté que Dieu veut pour son Église. Je crois qu'aussi cette question d'engagement, si j'ai parlé de l'Église comme quelque chose de collectif, eh bien, cette Église collective, elle est aussi une Église où nous sommes chacun, parce que nous sommes chacun animés de l'esprit, appelés à nous engager personnellement. C'est-à-dire que l'Église, c'est moi, l'Église, c'est toi, personnellement. Ce qui veut dire que chacun, nous avons notre part de responsabilité dans le fonctionnement de cette assemblée. Chaque personne, animée par l'esprit, doit pouvoir y trouver sa place. Et cela, bien, ça se fait par notre personnalité, par notre culture, par notre connaissance. Et chacun, avec notre particularité, avec notre originalité, eh bien, nous sommes amenés et nous sommes appelés à pouvoir contribuer à la construction de l'Église. Et si je pouvais comparer l'Église à un monument, je dirais que eh bien, chacun, nous sommes un petit peu comme une pièce de cet échafaudage, qui venons chacun avec notre particularité. Vous savez, dans un échafaudage, vous avez des pièces qui se ressemblent, et puis il y en a d'autres qui viennent permettre de clipser et tout ça pour pouvoir édifier un bâtiment qui va pouvoir s'élever. Et donc nous sommes chacun invités avec notre identité, les dons que Dieu nous a confiés, à pouvoir participer à ce grand monument, à cette cathédrale que nous devons édifier. L'Église est vivante, elle n'est pas fixe, et je crois que si aujourd'hui l'Église des Sables est dans une orientation, qu'elle est avec une identité qui est la sienne, eh bien, je serais heureux si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, eh bien, nous voyons des évolutions et que nous voyons, plusieurs groupes peut-être de louanges s'installer, peut-être un jour un groupe pour l'évangélisation, peut-être dans quelques années plusieurs, 10, je ne sais pas combien de prédicateurs, je ne sais pas ce que prendra la forme de l'Église, et je vais dire heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que c'est uniquement moi qui y participe. Mais, et puis heureusement que ce n'est pas que moi, parce que sinon je crois que l'Église serait très pauvre. Mais chacun, nous sommes appelés à venir avec les dons qui sont les nôtres. C'est pourquoi n'ayez pas peur de mettre en avant les dons que vous avez. N'ayez pas peur de mettre en avant l'identité qui est la vôtre, parce que cette identité, elle vient de Dieu, elle est belle. Et j'aimerais vous proposer un petit défi. Dans un mois, nous allons avoir la fête de Noël. Donc nous aurons le culte le matin, un culte un peu plus souple. Un culte croissant. L'après-midi, nous aurons un temps où nous allons avoir une fête de Noël, quelques scénettes pour venir présenter Noël. Mais j'aimerais vous inviter, peut-être que vous avez un talent de chanteur que vous nous avez caché jusqu'à présent. Peut-être que vous savez écrire des poèmes, peut-être que vous jouez d'un instrument de musique. Eh bien, c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir les dons que vous avez. Je me souviens d'un frère là à Rouen. Alors, on ne peut pas dire qu'il sait jouer du piano. Je pense que le soir, vous savez, c'est un gars qui travaille beaucoup. Et le soir, à mon avis, en fait, il aime rentrer et puis prendre un temps de détente. Et alors, vous savez, quand il joue du piano, il appuie, vous savez, touche par touche, quoi. Mais il apprend des chants chrétiens. Et alors, à Noël, il prenait... Il allait, et puis il va nous présenter, vous savez, un ou deux chants. Alors c'était tout charmant. Alors je veux dire, c'était pas du Tchaïkovski, on n'était pas à la salle payée, la Paris. Mais c'est terriblement touchant de voir que cette personne-là, c'est pas un don extraordinaire, mais il voulait participer et montrer avec sa force. Peut-être que Noël signifie pour vous, je sais pas, par exemple, moi je sais qu'en venant de l'Est, là, Noël, pour moi c'est la neige, il y a des bûches, il y a quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas, si vous venez d'une autre culture, eh bien, il y a peut-être des chants, des choses qui font que Noël vous signifie quelque chose. Eh bien, vous serez peut-être aussi sollicité à mettre en avant ce que peut signifier Noël dans votre culture. Et pour moi, donc, cette fête de Noël va peut-être juste être un apéritif de cet engagement pour que, pendant le reste de l'année, eh bien, vous puissiez exprimer là encore vos dons, peut-être nous dire, mais j'aimerais bien, je ne sais pas, peut-être une fois par mois, lire un poème devant, ou je ne sais pas, enfin, exprimer votre identité avec les dons que vous avez. Venez avec les dons que vous avez, afin qu'ensemble, nous puissions construire une vision commune pour l'Église, afin que nous puissions dire que l'Église n'appartient pas à une personne, à un individu, mais qu'elle appartient à l'Esprit de Dieu, et parce que nous sommes animés de l'Esprit de Dieu, nous puissions participer ensemble à cette grande construction. Le but est que chacun puisse trouver sa place dans notre assemblée. Et je crois aussi que c'est en utilisant les dons qui sont les nôtres que nous pourrons avoir un service épanoui pour l'Évangile. Alors, vous l'aurez compris, petit à petit, j'essaye de vous orienter, en fait, pour vous dire que bien, l'Église se construit autour d'une vision. Cette vision, ce n'est pas celle que le pasteur construit. Cette vision, elle se construit, je crois, en lien avec le Conseil d'Église. Et je crois que l'un des rôles du Conseil d'Église, c'est d'être mature pour entendre tout ce que chaque personne veut présenter, mais aussi entendre, mais aussi apprendre à le gérer, parce qu'il y a un temps pour toute chose, et les fonds sont peut-être un petit peu trop gourmands. Le but, voilà, d'avoir un conseil, c'est de réfléchir, de poser, de dire, ce n'est peut-être pas le moment, peut-être dans quelques années, peut-être de dire, ce n'est peut-être pas tout à fait la place et la vocation de notre Église, mais voilà, exprimer aussi au Conseil d'Église pour que, petit à petit, nous puissions réfléchir à des choses que nous pouvons mettre en place. Alors, je crois que cette vision, en tout cas, à laquelle j'aimerais que chacun puisse participer, s'inscrit, il me semble, dans deux orientations. Je crois que l'une des vocations de l'Église est d'être tournée vers l'extérieur. Je crois qu'elle doit avoir un rayonnement vers le monde. Le but est de rayonner, d'être visible vers ceux qui sont autour de nous, visible vers nos collègues de travail, visible devant les autorités politiques, visible, vous savez, lorsqu'il y a des débats éthiques, que nous n'ayons pas peur de prendre la parole. Mais je crois que l'Église est aussi orientée. J'aimerais principalement orienter le message de ce matin. Je crois que l'Église doit être orientée aussi sur elle-même. Vous savez, comme je l'ai dit jeudi, là, je reviens encore une deuxième fois sur cette étude que nous avons eue, nous voyons que le Fils est orienté vers le Père, et avant de créer le monde, il vient déjà puiser, s'orienter vers le Père, pour pouvoir ensuite s'orienter vers l'extérieur. Et je crois que de la même façon, l'Église a besoin de se trouver, a besoin de prendre conscience de son identité, de ce qui fait sa force, dans un premier temps. Et donc, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, nous verrons quelle orientation nous pourrons avoir vers l'extérieur. Mais j'aimerais orienter plus spécifiquement quelques orientations que nous pouvons avoir vers l'intérieur de l'Église. Je crois que Notre Église a une vocation première, c'est celle d'édifier ceux qui sont en son sein. Elle a pour rôle de protéger, de construire, de nourrir ceux qui sont dans son sein. Et lorsque l'on parle de l'Église et de l'édification de l'Église, eh bien, on va revenir sur un des fondamentaux, une prédication que vous avez peut-être entendue à plusieurs reprises. C'est celle qui s'appuie sur le texte du livre des Actes, au chapitre 2, verset 42. Nous avons besoin, pour que notre construction soit stable dans le temps, d'avoir des piliers, des fondements. Et j'aimerais apporter une réflexion autour de ces quatre piliers que nous trouvons en acte 2, 42, qui nous parle de cette église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc une église édifiée sur la parole de Dieu, sur la communion fraternelle, sur la fraction du pain et sur les prières. Alors donc cette vision, je crois, s'oriente donc premièrement, soyez là lorsque la parole est prêchée. Comme je le disais, l'Église est quelque chose de communautaire. Je crois que c'est très bien de lire la Bible de façon personnellement et je vous inviterai à le faire au cours de vos lectures quotidiennes. Mais l'Église s'inscrit aussi de façon communautaire, appuyée ensemble sur le texte de l'Écriture. Nous avons donc ce temps qui nous est accordé plus spécifiquement de culte le dimanche matin. Je vous invite à être là le plus régulièrement possible afin que nous puissions avoir un enseignement suivi et que nous puissions construire et bâtir ensemble sur les différentes prédications que nous pouvons avoir. J'aimerais aussi vous inviter à venir aussi assez régulièrement, lorsque vous le pouvez, suivant si vous êtes loin, pas loin, à venir aussi le jeudi soir pour venir avoir des enseignements sur la prière, une semaine sur deux. Et puis depuis peu, nous avons mis aussi ces exhortations suivies de textes de l'Écriture que nous prendrons. En ce moment, nous sommes dans le texte de l'Évangile de Jean. Prenez du temps aussi, comme je le disais, chez vous, afin de vous édifier sur la parole. Je vous encourage aussi à prendre des livres autres que la parole qui vous permettent de vous édifier, de pouvoir mieux comprendre ce que dit l'Écriture. Prenez des textes aussi qui peuvent alimenter votre piété, votre vie de prière. L'Écriture est inspirée par l'Esprit de Christ, et si nous aussi nous sommes inspirés par l'Esprit de Christ, lorsque nous ouvrons l'Écriture, nous nourrissons cette présence de Dieu en nous, nous nous édifions sur lui, nous bâtissons quelque chose de solide afin que nous puissions être dans l'Église des éléments moteurs. Cette vision aussi qui est vers l'intérieur de l'Église s'appuie aussi sur celle de la communion fraternelle. La communion fraternelle est quelque chose d'important. Et je crois que nous sommes invités à prendre soin des frères et sœurs qui sont dans l'Église. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est aimer les frères qui sont autour de nous. Et je veux dire, c'est toujours un peu évident quand on arrive dans une Église qui est toute neuve, les gens sont cool parce qu'on ne les connaît pas. Puis au bout d'un moment, à force qu'on connaît, on se rend compte que tel frère a tel trait de caractère, que telle personne, à un moment, on se rend compte que il va être limité sur telle ou telle chose. Mais je crois que justement, c'est là que vient se manifester l'amour. Et c'est là que ça vient nous apprendre sur nous-mêmes, sur les autres. Et c'est comme ça aussi que nous pouvons être transformés par la présence de l'Esprit. La présence de l'autre vient me titiller, vient m'amener aussi à voir ce que moi-même je ne vois pas, vient m'amener à prendre compte des propres carences que je peux avoir. Et si nous voulons avoir demain une Église qui est grande, qui est belle, bien c'est en prenant conscience de nos propres limites, pour pouvoir dire, mais moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Et je trouve ça génial quand quelqu'un peut mettre en avant ce talent. Et c'est ensemble, c'est dans ce cadre de cette communion fraternelle. L'Église doit prendre en compte toutes sortes de besoins, que ce soit les besoins spirituels, soyons attentifs aux besoins spirituels de nos frères, aux besoins affectifs, il y en a qui ont besoin d'être plus entourés, entre autres particulièrement des fois lorsqu'il y a des passes plus difficiles. L'Église a besoin de relationnel, nous avons besoin de nous voir même en dehors peut-être du cadre de l'Église. Elle a des besoins physiques lorsque des personnes à un moment ont besoin d'assistance, que ce soit dans le cadre d'un déménagement, lorsqu'il y a un problème de santé. Nous sommes invités aussi au cours de l'Écriture à pratiquer l'hospitalité. Invitons-nous assez régulièrement à venir manger ensemble. Je crois que ça fait aussi partie de la construction. On ne se dit pas les mêmes choses quand on est autour d'un repas que lorsqu'on se croise entre deux portes d'église. Et je crois que cette communion fraternelle vient aussi nous inviter à laisser toujours plus de place aux personnes qui arrivent, parce que eh bien, si nous voulons pratiquer la communion fraternelle, eh bien, c'est-à-dire que nous sommes aussi invités à pratiquer la communion fraternelle vers les personnes qui nous rejoignent, et laissons de la place, invitons ceux qui arrivent à prendre aussi toujours plus de place dans l'Église lorsqu'ils peuvent le manifester. Cette vision aussi, je crois, se greffe à celle de la fraction des pains. Je vais appeler cela la diaconie, le service qui est offert de l'Église pour l'Église. Dans un premier temps, je verrai un petit peu plus tard comment nous pouvons organiser peut-être de la diaconie, un service vers l'extérieur. Mais l'Église est un lieu où on peut oser dire que l'on est fragile, oser dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Alors le but n'est pas forcément de le faire devant tous. Mais peut-être qu'à un moment, il y a des frères, des sœurs avec qui on peut se sentir plus à l'aise et lui dire, mais tu sais, là, en ce moment, je passe par une mauvaise passe, j'aimerais que tu pries pour moi. Acceptons d'être un soutien, aussi d'être soutenu, acceptons d'être faible. Éloignons tout esprit de jugement en regardant toujours le frère qui est en face de nous comme supérieur à nous-mêmes. Cela passe aussi par le respect des aînés. Nous aurons donc le 5 décembre, ça nous sera rappelé, mais une journée pour les aînés, mais prenons soin des personnes qui sont parmi nous, qui ne voient pas forcément régulièrement les enfants, de prenons des nouvelles, essayons d'être attentifs vers ceux qui peuvent être dans des difficultés sociales. Et puis, nous allons avoir très prochainement ce défi, qui va être un défi aussi peut-être nouveau, celui de l'accueil, donc je vais prendre chez moi donc une famille de chrétiens qui doivent fuir la Syrie ou l'Irak, je ne sais pas encore, mais je crois qu'aussi ce service de l'Église est fait aussi vis-à-vis de ces personnes. Lorsque ces personnes viendront, il y aura des difficultés au début de parole, parce que ces personnes ne parleront peut-être pas français, mais affirmons notre amour, offrons par exemple quelque chose aux enfants pour leur montrer que ils sont aimés, ils sont attendus. Alors peut-être qu'on pourra peut-être pas au début beaucoup parler, mais dire simplement, viens, je vais te chercher, on va se promener, et juste se promener, faire les magasins ensemble. Enfin, c'est des choses comme ça, je crois que c'est... On ne se rend pas compte combien des fois nous avons juste besoin d'être en relation les uns avec les autres. Cette dernière vision aussi, elle concerne la prière, parce que c'est elle qui vient nous mettre en mouvement lorsque nous prions. Nous commençons à faire le premier pas dans l'orientation de la volonté de Dieu. Cette prière, elle se fait de façon personnelle, mais aussi de façon communautaire. Et j'aimerais encourager chaque personne qui est présente dans cette église, lorsque nous avons ce temps de prière, comme il nous a été demandé tout à l'heure, eh bien, n'ayons pas peur d'élever notre voix, n'ayons pas peur, la prière est quelque chose de beau, et on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe dans le ciel lorsque nous élevons nos voix. Peut-être même que le français n'est pas notre langue de naissance, mais peut-être réfléchissez avant de venir au culte en disant je priais, dire merci Seigneur pour l'église, merci Seigneur pour mes enfants, je ne sais pas, réfléchissez peut-être, le but c'est que chacun nous sentions cette liberté de pouvoir élever la prière. Ce temps de prière, nous le vivons aussi le jeudi soir, et c'est un temps aussi où nous pouvons partager des sujets ensemble. Peut-être que ça nous fait peut-être loin pour venir. Mais n'hésitez pas à dire, je pense que ça pourrait être bien qu'un jour tu viennes à la maison, puis que l'on puisse prier ensemble. Et à moyen terme, j'aimerais bien en tout cas qu'on réfléchisse si vraiment il y a des personnes qui se trouvent dans une même zone géographique, peut-être faire une cellule de prière quelque part. Nous y réfléchirons, En tout cas, je crois qu'il nous faut en tout cas être attentifs à cela et réfléchir peut-être pour voir comment les choses se construiront. Je crois que la prière, elle nous donne aussi de nous rendre compte dans quelle étape nous sommes dans le plan de Dieu. J'étais il y a quelques mois à Paris dans une église qui vit un réveil. L'église a grandi, elle est passée de à peu près 5 personnes à 600 personnes en 9 ans. Et le frère qui est le pasteur de cette église disait, on est obligé de nous tenir en éveil sur ce que Dieu veut pour l'église. Parce que on lance un projet. Et puis 6 mois après, on se rend compte que le projet ne correspond plus à l'Église parce que l'Église a grandi, elle a évolué. Et puis alors il nous faut laisser tomber ce projet et puis nous tenir tout le temps en éveil pour lancer de nouveau quelque chose. Vous savez, ça rejoint en fait ce que j'étais en train de dire. Dieu greffe les gens à l'Église, Dieu apporte de nouveaux dons, de nouveaux talents. Et bien alors on se rend compte que l'on doit évoluer. C'est dans la prière que l'on peut se rendre compte de ça. Alors je conclue. Vous l'aurez senti. J'aimerais vous inviter à ce que nous puissions dessiner, définir une église en commun, à ce que cette église ne soit pas la responsabilité de quelques-uns, mais c'est ensemble que nous formons l'église, que nous soyons ce corps qui est attentif, à construire ensemble. Vous savez, c'est, je crois que cette parole de Paul est forte, hein, celle du corps. Un corps, lorsqu'il se construit, il ne passe pas d'un coup de la phase de bébé à la phase d'adulte ou à la phase de vieillard. Dans l'adolescence, on n'a pas un bras qui pousse de 10 cm et puis l'autre qui ne pousse pas. Mais si on veut construire ensemble, eh bien c'est aussi assez petit à petit que l'on va apprendre à greffer les choses, petit à petit aussi que l'on doit accepter des remises en cause. On ne passe pas du statut d'enfant au statut d'adulte, mais quand j'étais enfant, je faisais certaines choses. Ça rejoint la parole de Paul, hein. Je faisais certaines choses lorsque j'étais enfant, puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu faible. Et quand on devient adulte, eh bien, à un moment, on est capable d'avoir un discours raisonné, une attention raisonnée. Et de la même façon, je crois que l'Église est appelée à se questionner pour pouvoir sans cesse grandir dans le projet que Dieu veut pour nous. Pour avoir un corps en santé et fonctionnel, il nous faut grandir ensemble, c'est-à-dire prendre le temps d'attendre les autres, c'est-à-dire être capable de former, d'attendre, d'aimer, de se questionner, mais aussi être prêt à être remis en cause pour pouvoir toujours plus être un ensemble, pour toujours plus être attentif les uns aux autres. Et c'est petit à petit que l'Église viendra ajouter don sur don, capacité sur capacité, et au fur et à mesure, c'est ainsi que nous pourrons grandir toujours plus dans la connaissance de Christ. Acceptons aussi, avec beaucoup de patience et d'amour, dans un esprit d'unité, ceux qui se joignent à nous. Le but n'est pas de revendiquer que nous avons une part, quelque chose, mais vraiment que sans cesse nous disions « mais cette personne, ça fait quelques fois qu'on le voit dans l'Église, peut-être qu'on peut le solliciter sur telle ou telle chose. » Voilà, proposez, mettez en avant. Alors j'aimerais terminer par une exhortation. Peut-être que vous fréquentez cette église depuis un moment et que vous ne vous êtes peut-être pas senti concerné jusqu'à présent en vous disant « Mais moi aussi je sais faire des choses et j'aimerais pouvoir les mettre en avant pour l'église. J'aimerais aussi participer à ce corps que nous formons. » Eh bien, j'aimerais vous encourager. N'hésitez pas. Réfléchissez aux qualités que vous pouvez avoir. Réfléchissez aux dons que Dieu a pu vous donner. Et puis, venez, sollicitez-nous pour que nous puissions ensemble construire ce corps que nous formons pour pouvoir toujours plus ressembler à ce que Dieu veut pour nous. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, je veux vraiment te bénir et te remercier parce que nous sommes fondés par ton esprit pour former un seul corps, une seule identité. Et Seigneur, merci parce que ton esprit est ce qui vient nous mettre en mouvement pour que nous puissions refléter toujours plus ta gloire, toujours plus ta grâce. J'aimerais vraiment, Seigneur, que chacun, nous puissions nous sentir concernés, que moi, je puisse me sentir concerné, que chaque frère, chaque sœur qui est assis dans cette église puisse se sentir concerné. Non pas se contenter simplement du service que nous avons pu faire jusqu'à maintenant, mais nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui pour ton église? Seigneur notre Dieu, donne-nous d'être attentifs, donne-nous d'aimer ton œuvre, donne-nous d'aimer les frères et sœurs, pour que nous puissions vraiment construire et bâtir ensemble ce que tu veux pour nous. Merci Jésus. Amen.